Bien, eh bien, on va arrêter ici. Nous allons maintenant donner la parole au quatrième intervenant de ce matin, qui est Monseigneur Callistos de Dioclia, que je n'ai nul besoin de présenter parce que tout le monde le connaît. Seule chose que je peux dire de nouveau sur Monseigneur Callistos, c'est qu'il vient d'être nommé responsable par le patriarcat œcuménique du dialogue entre l'Église orthodoxe et l'Église anglicane. Et il succède maintenant à la tête de ce dialogue à Monseigneur Jean, métropolite de Pergame. Mais ce n'est pas de l'anglicanisme que Monseigneur Callistos va nous entretenir ce matin. Il va nous parler de la doctrine de Nicolas Cabasilas sur la Mère de Dieu. Monseigneur, la parole est à vous.
Elle est la cause de toute beauté et magnificence et de tout ce que l'humanité honore avec des âmes. C'est à elle seule que toute louange doit être attribuée. En vérité, elle doit être considérée comme la cause de notre existence en tant qu'être humain. Et non seulement cela, mais c'est aussi à cause de la Vierge bénie que les cieux et la terre et l'univers tout entier existent. Le Christ l'a choisie pour être sa mère, car elle est assez simplement la meilleure entre tous. Tin aristin haplos. Pas de telles paroles, Saint Nicolas Cavasilas exprime son sens profond d'admiration et d'émerveillement devant la personne de Marie, la Mère de Dieu. En plus de ses deux œuvres de théologie sacramentelle, la vie en Christ et le commentaire de la Sainte Liturgie, ses homélies en l'honneur de la Sainte Vierge constitue sa troisième contribution significative à la théologie orthodoxe. Ses homélies sont au nombre de trois, consacrées respectivement à la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, à l'Annonciation et à la Dormition. Par vertu de ces trois homélies, Cavasilas pourrait être considéré à juste titre comme le penseur le plus important dans le domaine de la mariologie dans l'Orient orthodoxe après Saint Jean Damasien. Les homilies sont rédigées dans un style rhétorique élaboré, bien plus complexe que le style relativement simple et direct de la vie en Christ et du commentaire. Néanmoins, bien qu'oratoires, elles sont aussi profondément théologiques. L'enseignement qu'elles renferment est subtil, perceptif et argumenté avec soin. Quels sont alors les principaux thèmes de cet enseignement? Sans prétendre d'être exhaustif, considérons plus particulièrement sept points. Premier, la Christologie. Les deux œuvres majeures de Cabasilas, la vie en Christ et le commentaire, sont profondément christologiques par leur caractère. Le sont aussi les trois homélies en l'honneur de la Sainte Vierge, bien que d'une manière moins envie. Lorsqu'il glorifie Marie, ce n'est jamais pour elle ou en elle-même prise à part, mais toujours explicitement ou implicitement en vertu de sa relation au Christ son Fils. Lorsqu'elle est grandement louée, c'est précisément parce qu'elle est Théotokos, Mère de Dieu. La mère est honorée à cause de son enfant. Elle est la voie et la porte du Sauveur, comme il le dit. Odos que Thyra. Elle est, en d'autres mots, Hodigitria. Même si Cavasiles ne dit pas cela exactement. Celle qui indique toujours le Christ, qui nous montre toujours le chemin et qui nous guide vers lui. C'est pourquoi, lorsque Cavasiles dit quelque chose de surprenant, à savoir que les cieux et la terre et l'univers tout entier existent à cause de Marie, ce qu'il veut dire, c'est que l'incarnation du Christ est, selon l'expression de saint Maxime le Confesseur, le mystère grand et caché, la fin bénie, pourquoi toute chose a été créée, et que Marie, la Mère de Dieu, fut l'instrument humain à travers lequel la fin bénie s'est réalisée. Si nous gardons à l'esprit la perspective christocentrique que soulignent les trois hommes et l'Immaria dans leur ensemble, cela nous aidera à comprendre certains passages où Cavasiles applique à Marie les titres ou les expressions qui seraient habituellement attribués au Christ. C'est ainsi qu'il parle d'elle comme ayant existé pour notre purification et propitiation, hilastirion, et qu'elle a sanctifié la race humaine toute entière. Pantas et dikeose, justifier la race humaine. Mais le sens que donne Cavasiles est clair par ce qu'il dit immédiatement après, qu'elle est un sacrifice de purification, thysia cathartyrios, offert avant le grand sacrifice en faveur de la race humaine tout entière. Le sacrifice de Marie, on peut dire, n'est que préparatoire. Protéléos est le mot que utilise Cavasiles. Un sacrifice offert avant le grand sacrifice, en faveur de la race humaine tout entière. Le sacrifice de Marie, on peut dire, n'est que préparatoire, n'a pas de valeur et d'efficacité qu'à cause de ce grand sacrifice offert par son Fils. C'est le Christ qui nous réconcilie à Dieu par sa croix, mais ce fut Marie, sa mère, qui fut le moyen par lequel le Christ, notre Sauveur, est venu habiter parmi nous. Utilisons la phrase liturgique habituelle. Cavasiles désigne Marie comme le salut des hommes, sotiria ton anthropos. Mais en même temps, il précise en ajoutant que le Christ est la cause, étios, de ma sanctification. Mais toi, Marie, tu es la co-cause, sin etios. On ne peut donc y avoir aucun doute que pour Cavasiles, seul Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Mais pour utiliser un terme catholique romain moderne, qui bien sûr ne se trouve pas chez Cavasiles, Mariae co-redemptrice, co-redemptrix, par la vertu de sa maternité divine, elle partage dans un degré unique l'œuvre rédemptrice du Christ. Ici, comme toujours, Cavasilas considère Marie comme sous le Christ. Deuxième point, le lien entre les deux testaments. Cavasilas considère la bienheureuse Vierge comme le lien qui réunit, comme le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui, dans sa propre personne, assure la continuité de l'histoire sainte. Elle est, comme il la désigne, à la fois le fruit de la loi et la maison du trésor de la grâce. Elle est à la fois la fille d'Israël, rassemblant en sa propre personne toute la sainteté du peuple élu, et aussi la mère de l'Église, qui par la nouvelle alliance du Christ, par qui la nouvelle alliance du Christ fut inaugurée, montrant comment l'ancienne alliance se réalise en elle. Cavasilas appelle la Vierge le véritable tabernacle de Dieu, l'arche, le campement stratégia de Moïse, le Saint des Saints. On peut noter que dans ce contexte, l'une des raisons pour laquelle les théologiens orthodoxes modernes ont eu des réserves à l'égard de la doctrine catholique romaine de l'Immaculée Conception est précisément que, de leur point de vue, elle amoindrit le rôle de Marie en tant que trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque la définition romaine de 1854 affirme que Marie fut conçue de façon immaculée, intuitu meritorum Christi Jesu salvatoris humani generis, ayant en vue les mérites du Christ Jésus, le sauveur du genre humain, elle semble retirer la Sainte Vierge de sa position au sein d'anciennes alliances et la placer par anticipation au sein du nouveau. Et dès lors, la cohésion et la continuité de l'histoire du salut n'est pas assuré. Cela peut nous conduire à douter du fait que Cavasilas acceptait en fait la notion d'Immaculée Conception. Nous reviendrons sur cette question bientôt. Troisième point. Marie et la doctrine de la personne humaine. Martin Jougy, dans sa discussion sur la mariologie de Nicolas Cavasilas, résume correctement son enseignement fondamental. Marie, il dit, est le type idéal de l'humanité. Elle seule a pleinement réalisé l'idée divine de l'homme. Elle est l'homme par excellence. Panagiotis Nellas dit la même chose lorsqu'il affirme que les trois homélies de Cavasilas sur la mère de Dieu pourrait être aussi considéré comme trois essais byzantins d'anthropologie. Cabasselas, comme nous avons vu, souligne l'unité entre l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Elle est le point culminant de toute la sainteté développée à travers plusieurs générations de l'histoire du peuple hébreu. Mais, en même temps, Cabasselas insiste sur sa nouveauté radicale. Dans l'histoire du genre humain, Marie représente un commencement nouveau, un nouveau début. Ainsi, dans son homélie du 8 septembre pour la nativité de la Théotokos, il décrit la fête comme le jour de naissance, Genethlion. Non pas tellement, il dit, de la Vierge, mais plutôt de la terre habitée tout entière. La Vierge, affirme-t-il, a fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Développons cette ligne de pensée, Cabasselas appelle la Vierge Protos Anthropos, le premier homme, car, comme il le dit, elle est la première et elle seule montra la nature humaine. Elle nous révèle, dit-il, l'homme, tel pourquoi nous fûmes créés. En Adam et ses descendants avant la Vierge Marie, nous voyons la nature humaine déformée par le péché. En elle, pour la première fois, nous voyons notre humanité non déformée, mais dans sa véritable intégrité, telle que Dieu voulut qu'elle soit. Ici, comme plus haut, nous ne pouvons qu'être quelque peu déconcertés. Cabasselas n'attribue-t-il pas à la Sainte Vierge quelque chose qui ne saurait être attribué qu'à Jésus-Christ? Dans une homélie attribuée à Saint Basile le Grand, la nativité du Christ est désignée comme le jour de naissance du genre humain tout entier. Cabasselas, au contraire, considère que c'est la nativité de Marie qui constitue le jour de naissance de la terre habitée. Selon saint Paul, c'est le Christ qui est le second Adam, exprimant en lui-même la plénitude de la personne humaine que le premier Adam échoua à réaliser. Mais Cabasselas semble considérer Marie comme le second Adam. Cabasselas s'explique en disant que le Christ est véritablement le second Adam. Mais il ne nous révèle pas le sens de notre humanité de la manière que Marie le fait, car il était à la fois Dieu et homme, alors qu'elle n'était qu'un homme. Le Christ, continue Cabasselas, étant Dieu, ne pouvait pas pécher. Mais Marie, n'étant que homme, aurait pu pécher, alors qu'en fait, elle ne pécha pas. C'est pourquoi elle nous montre, il dit, Ce que Dieu désirait que l'homme soit en cette vie. En ce monde, poursuit Cavasilas, comme j'ai dit au paradis, elle manifesta la personne humaine dans sa pureté et sa plénitude, telle qu'elle avait été créée au commencement, telle qu'elle aurait dû demeurer, et telle qu'elle pourra devenir ultérieurement à travers la faute d'acquérir notre véritable noblesse. Même si on pourrait penser légitimement qu'en faisant de Marie plutôt que du Christ le modèle de votre véritable personne, Cabasilas a peut-être exagérer son argument. Toutefois, en sa défense, nous pouvons ajouter qu'en tout cela, Cavasilas ne perd jamais de vue l'union essentielle entre la mère et son fils. Si elle manifeste ce que c'est qu'être homme, elle le fait parce qu'elle fut choisie pour Dieu pour être instrument humain de l'incarnation. Ici, comme toujours, Cavasilas voit Marie non pas isolément, mais avec et sous le Christ. En soulignant l'enseignement anthropologique de Cavasilas concernant la Sainte Vierge, on peut discerner un point de vue scotien, Dan Scotus, sur l'incarnation. Pour Cavasilas, tout comme Saint Maxime le Confesseur et Saint Isaac le Syrien, de même que pour les contemporains de Cavasilas, Saint Grégoire Palama et Théophanes de Nicée, le motif déterminant de l'incarnation n'était pas simplement le péché de l'homme, mais la naissance humaine du Christ était voulue par Dieu de toute éternité. L'incarnation était, pour ainsi dire, non pas simplement un plan d'urgence et inventé à cause de la chute humaine, mais l'expression de l'amour immuable de Dieu. De ce fait, la vocation de Marie d'être Théotokos fait partie du plan divin initial de la création. C'est pour cette raison que Cavasilas peut dire que le monde fut créé pour elle et à cause d'elle. Comme l'arbre existe dans le but de produire des fruits, de même on peut dire que toute la création vint à exister pour elle. Elle est le fruit de toutes choses créées, carpos esti ton ctismaton. Elle est le scopos de la création, son fin et son but. D'après Saint André de Crète, la Théotokos est telos to scopi mototon que istaton Dimiurgias hapasis, le but ultime et final de toute la création, sur la base de quoi le monde vint à exister. Ainsi, de toute éternité, et non simplement suite à la chute de l'homme dans le péché, Dieu désirait créer une mère à travers qui pouvait se réaliser l'incarnation. Quatrième point, la coopération de la mère de Dieu. Que Vasilas insiste plus particulièrement sur une façon spécifique par laquelle la Vierge nous révèle notre propre humanité essentielle. Et c'est là, à travers de l'usage de son libre arbitre. La liberté humaine est un thème majeur dans toutes les œuvres principales de Kavasilas. Si bien qu'il est souvent accusé d'être pélagien ou semi-pélagien, bien que cela soit une mauvaise interprétation de sa véritable position. Pour Kavasilas, être un homme signifie être libre. Et cela peut être perçu de manière prééminente dans la vie de la Mère de Dieu. Au moment de l'incarnation, elle ne fut pas simplement un instrument passif dans les mains de Dieu, mais un participant actif du mystère. Selon saint Irénée, Marie coopéra à l'économie. Et tel est aussi le point de vue de Kavasilas. Elle agit, dit-il, en tant que collaboratrice, voïthos de Dieu. Synergasato, elle coopéra avec le Créateur dans son œuvre de rénovation de sa création. Les paroles de saint Paul, Theugar esmen synergi, nous sommes des coopérateurs de Dieu, doivent être appliquées en premier lieu à Marie. Le moment suprême où Marie exprime cette coopération à travers l'exercice de la liberté humaine fut l'Annonciation. Lorsqu'elle répondit à l'archange, « Je suis la servante de Dieu, qu'il m'advient selon ta parole. » Comme Kavasilas l'explique, le Verbe du Père est formé à travers la parole de sa mère. Platete logo mitros, ho tu patros logos. Dans un passage souligné à juste titre par Vladimir Losky dans son essai sur la Panagia, Kavasilas affirme, l'incarnation du Verbe fut non seulement l'œuvre du Père, de sa vertu, et de son esprit, mais aussi l'œuvre de la volonté et de la foi de la Vierge. Sans le consentement de l'Immaculé, sans le concours de sa foi, ce dessein était aussi irréalisable que sans l'intervention des trois personnes divines elles-mêmes. Ce n'est qu'après l'avoir instruite et persuadée que Dieu la prendre pour mère et lui en prendre la chair qu'elle veut, elle veut bien lui prêter. Du même qu'il s'incarnait volontairement, de même voulait-il que sa mère l'enfanta librement et de son plein gré. Il ne désirait pas point d'elle une coopération purement passive et comme mécanique au mystère. Il voulut une collaboratrice pour opérer le salut du genre humain, une associée synergos de son zèle miséricordieux. en tant qu'associé, synergos de la providence divine, Marie révèle le vrai sens de la synergia, la signification profonde du mystère de la grâce de Dieu et de la liberté humaine dans leur interaction mutuelle. Cinquième point, l'absence de péché chez Marie. Nicolas Cavazzelas insiste de manière très claire sur la pleine et entière absence de péché chez la Mère de Dieu. Elle est agiosinis et pecina passis, au-delà et au-dessus de toute autre sainteté humaine, comme il le dit dans son commentaire de la divine liturgie. Elle seule, écrit-il, parmi tous les êtres humains de tout temps, du commencement à la fin, se tint ferme contre tout mal et rendit intacte à Dieu la beauté qui nous fut conférée par lui. Elle garda son âme, il dit, pure de tout mal. De plus, sa sainteté se répandit de son âme à son corps. Elle a eu, nous dit Cavazzelas, un corps spirituel, soma pneumaticon, pas seulement psychicon. Même si certains parmi les saints docteurs disent que à l'Annonciation, la Vierge fut purifiée par l'Esprit, affirme Cavazzelas, se référant à saint Grégoire de Nyssa et à saint Jean d'Amicène, cela ne signifie pas qu'elle était pécheresse auparavant. La purification dans ce contexte signifie tout simplement prosthiki chariton, une addition des dons de la grâce. Elle était, il dit, une fois pour toutes, kathapax, libérée du péché. Ce qui signifie probablement qu'elle était toute sainte depuis sa naissance. Cavazzelas affirme même qu'elle n'a jamais eu besoin, en aucun cas, de réconciliation, spandone. Ce qui, tiré du contexte, pourrait être interprété de telle façon qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée par le Christ. Toutefois, si on tient compte de l'insistance constante de Cavazzelas de l'unité entre Marie et le Christ, cela pourrait être difficilement son intention. Ce témoignage définitif et non équivoque de l'absence de péché chez la Vierge tout au long des trois homélies mariales de Cavazzelas nous amène naturellement à poser une question. Acceptait-il la doctrine de l'Immaculée Conception comme l'enseigne l'Église catholique romaine? Martin Jouji conclut avec confiance qu'il y croyait, alors que le théologien grec Panagiotis Nellas soutient que non. Je suis d'accord avec Nellas pour trois raisons précises. Premièrement, comme l'archevêque Yanis Spiteris le remarque dans votre livre La théologie byzantine et sa tradition, il manque pour Cavazzelas, tout comme pour toute la tradition patristique grecque en général, une présupposition essentielle à la doctrine de l'Immaculée Conception, la notion de culpabilité héritée. Deuxièmement, selon Cavasilas, et ceci est assez remarquable, la Vierge Immaculée n'habitait pas dans les cieux, elle n'est pas non plus née des corps qui y habitent, mais elle est née de la terre, de la même manière que tous les autres hommes, nés de la race déchue, qui a grandi en ignorant sa propre nature. Ce sont les mots de Cavasilas, nés de la race déchue. Elle n'avait pas une nature qui n'était pas familière avec toute la méchanceté, il dit. Au contraire, elle possédait une nature qui fit l'expérience d'être constamment combattue. Elle a un corps assujetti au péché. De plus, dit Cavasilas, elle ne possédait aucune grâce spéciale qui n'était accessible à aucun autre être humain avant la venue du Christ. Mais elle n'a fait qu'utiliser pleinement la puissance qui est donnée à toute personne sans exception. Ainsi, d'après la compréhension de Cavasilas, Marie était née sujet des conséquences de la chute, recevant une nature humaine qui était dans la même condition que celle de toute l'humanité avant l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Mais si, sur le plan de la nature, elle était sujet de la chute, sur le plan de sa volonté et de son choix volontaire, elle était sans péché. Le fait qu'elle avait une nature déchue aux yeux de Cavasilas ne diminue en rien la gloire de la Vierge bénie, mais au contraire rend l'absence de péché chez elle encore plus remarquable. Un troisième point est intimement lié au second. Comme l'affirme Cavasilas à plusieurs endroits, Marie parvint à la sainteté par ses propres efforts et non pas en vertu d'une grâce spéciale. Tout comme les autres membres du genre humain, elle a dû vaincre le péché par son propre zèle et sa propre force, dit-il. Sa sainteté n'était pas purement passive, un don de Dieu, mais active, la conséquence de sa propre volonté. Ici comme toujours, Cavasilas souligne l'importance de la liberté humaine. Sixième point. La gloire finale de la Théotokos. Même si Cavasilas n'est pas d'accord avec la doctrine de l'Immaculée Conception, elle est toutefois d'accord avec le point de vue classique de l'Église catholique romaine au sujet de l'Assomption. Il croit que Marie connut la mort corporelle, mais qu'après être demeurée pour une courte durée, dit-il, au tombeau, son corps fut ressuscité et réuni avec son âme, il fut reçu au ciel. Il y a, c'est vrai, quelques catholiques romains qui, comme Martin Jugy, adoptent un point de vue immortaliste, en disant que la Vierge Marie fut reçue dans la gloire sans passer par la mort corporelle. Mais cela, je pense, n'est pas l'opinion normative dans l'Occident latin. Pour ce qui est de l'Orient chrétien, il est clairement affirmé dans les textes liturgiques et dans la tradition patristique grecque que Marie a connu une mort physique, tout comme son fils, et que Vasilas est lui-même clair sur ce point. Nous ne trouvons pas non plus chez Vasilas l'idée que l'on retrouve chez certains auteurs grecs qu'après sa mort, le corps de Marie fut tiré du tombeau, mais n'était pas réuni immédiatement avec son âme, mais était placé au paradis, qui doit être compris comme une région distincte des cieux, où il demeurera jusqu'à la parousie. Selon ce point de vue, c'est-à-dire l'âme de la Sainte Vierge est au ciel à ce moment, mais son corps n'est pas là, mais dans le paradis, séparément. Cette opinion non-assomptionniste est entre autres tenue par l'empereur Léon le Sage et par Jean le Géomètre au Xe siècle. Et par Joseph Bryennios au 15e. Car Vasilas, au contraire, est convaincu que même maintenant, Marie habite déjà dans les cieux, dans la pleine intégrité de sa personne, corps et âme réunis. Et il rejoint ici la croyance de Saint Jean Damascène et dans la période byzantine plus tardive de Saint Grégoire Palamas et de Saint Marc d'Éphèse. La raison principale qui permet à Cavesselas d'affirmer l'Assomption de Marie dans son corps est la même que celle que l'on trouve dans des homilies mariales de Jean Damascène. Selon Jean, il n'y a rien qui sépare la mère de son fils. Entre la vie de Marie et celle du Christ, il y a une configuration, une correspondance constante. Elle était juste, affirme Cavasilas, qu'elle devait partager avec son fils toutes les actions de sa providence envers nous. C'est pourquoi, afin de réaliser la prophétie de Simeon, une épée te transpercera l'âme, elle entra le plus possible dans la passion du Christ, lorsqu'elle se tenait au pied de la croix. Plus que personne d'autre, dit Cavasilas, elle réalisa dans sa propre personne le sens des paroles de Paul. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Elle, plus que personne d'autre, était conformée, simorphose, à sa mort, en traversant une mort comme la sienne. Tout comme lui, elle descendit aux enfers. Et finalement, elle partageait également avant les autres sa résurrection. En étant soulevé, corps et âme réunis au ciel. Il était nécessaire, conclut Cavasilas, qu'elle traverse toutes les voies qui avaient été suivies le Sauveur. La résurrection de la Vierge bénie et son entrée avec son corps aux cieux signifie qu'elle est par excellence une personne eschatologique. Elle est passée au-delà de la mort et du jugement. Dans son cas, la résurrection du corps qui nous attend tous au dernier jour fut anticipée. Et même maintenant, elle demeure pleinement dans la gloire du siècle à venir. En vérité, dès le moment de l'Annonciation, selon Cabasilas, elle possédait déjà un corps spirituel, cette sorte de corps que posséderont les justes, selon Paul, après la résurrection au dernier jour. Et cela signifie que même avant son assomption dans son corps, elle participait au siècle à venir. Même dans la vie présente, elle partageait les bénédictions qui sont à venir et régnait dans le royaume qui est réservé aux justes. De ce fait, elle est en vérité les premiers fruits à part qui de la création transfigurée. Ici, comme si souvent, Cavasilas n'a pas peur d'appliquer à Marie un terme que Paul utilise pour le Christ. Septièmement et dernièrement, la Vierge comme intercesseur. Revenons du futur au siècle présent. Nous pouvons remarquer finalement comment Cavasilas, comme nous pouvons nous attendre, souligne le rôle de Marie en tant qu'intercesseur pour le monde. Avant le Paraclet, elle devint notre Paraclet devant Dieu, écrit-il. En lien avec cela, il est significatif que dans son commentaire de la Divine Liturgie, Cavasilas insiste avec beaucoup de vigueur, en lien avec la prière qui suit immédiatement l'Épiclèse. Nous t'offrons encore ce culte spirituel pour ceux qui se sont endormis, en premier lieu pour notre toute sainte pure bénie par-dessus tout, et glorieux souverain, la mère de Dieu et toujours Vierge Marie, que ceci n'est pas, malgré tout ce qui peut sembler être son sens de vie, n'est pas une prière à son intention, mais une expression d'action des grâces. Nous n'intercédons pas en sa faveur, mais elle intercède pour nous. Tel est, dans les grandes lignes, l'enseignement riche et complexe de Saint Nicolas Cavasilas au sujet de la personne de la bienheureuse Vierge Marie. L'élément le plus précieux dans cet enseignement est sûrement sa compréhension de la Théotokos en tant que modèle suprême de ce que doit être une personne humaine. Toujours en dessous du Christ et en union avec lui, elle est le miroir dans lequel nous voyons le reflet de notre propre vrai visage. Et ce qu'elle nous montre de notre personne est avant tout une valeur cardinale de liberté. Pour reprendre les mots de Soren Kierkegaard, la chose la plus formidable qui fut octroyée aux êtres humains et le choix, la liberté. Et si tu veux sauver cette liberté et la garder, il n'y a qu'une façon, à cette même seconde, de la rendre à Dieu et toi-même avec elle. Cabasilas aurait été d'accord.
Merci, Monseigneur, pour cet exposé très riche, toujours très clair, très facile, c'est très facile et une joie de vous suivre. Et en même temps, comme toujours, vous soulevez des questions qui sont provocatrices. Alors, il reste très peu de temps, il y a un déjeuner qui nous attend, qui va être servi incessamment au réfectoire, mais je pense que cette contribution majeure sur un thème, d'ailleurs, qui n'a pas été beaucoup travaillé, à savoir l'enseignement sur la Mère de Dieu chez Nicolas Cabasilas, mérite quand même qu'on prenne quelques minutes pour une discussion. Je vois déjà, il y a deux Pères Nicolas, Père Nicolas Chamafraf qui veut d'abord poser une question, ensuite Père Nicolas. Oui.
Merci beaucoup, Monseigneur. Je vois une réflexion qui est vraiment extraordinaire. Je vois cet aspect de la Mère de Dieu et sa place, comme vous avez dit, dans cette économie de notre salut à côté de son fils ou avec son fils. Alors, excusez-moi, je vais vous poser une question, mais peut-être un peu de provocation, surtout à propos de votre sixième point, à propos du lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et surtout sur cette vision finale eschatologique. Je me suis dit, est-ce que dans cette période byzantine, il y a une sorte de manque de connaissances de théologie néo-testamentaire? Donc, je m'explique. Donc, vous savez que, et dans la théologie johannique, et dans la théologie paulinienne, donc, Jean dit, celui qui croit au moi passe de la vie à la mort et ne vient pas en jugement. Donc, celui qui croit, donc, c'est-à-dire chaque chrétien, n'est-ce pas, il y a assez. Et Paul déjà utilise dans les épîtres de captivité que nous sommes co-ressuscités avec lui, que nous sommes même assis à sa droite. Pourquoi cette séparation, cette focalisation sur la Mère de Dieu seulement, et pourquoi ne pas pour chaque chrétien?
Alors, en ce contexte, on peut dire que l'eschatologie de Cabasilas est pas seulement réalisée et pas seulement futuriste, mais plutôt inaugurée. Je lis beaucoup la langue française, mais je ne me parle pas très peu de fois. Ça, c'est la difficulté. Inauguré. Oui. C'est-à-dire que, oui, tous les baptisés, tous les personnes baptisées qui partagent le don d'immortalité, corps et sang du Seigneur sont déjà inaugurés, ont déjà entré dans la vie éternelle. Mais pas encore pleinement, pas encore extérieurement dans leur corps, mais seulement de façon cachée dans leur âme. Même si notre corps partage les dons sacramentels et reste un corps mortel, nous devons mourir. Mais seulement Marie est entrée pleinement dans la vie du siècle à venir. Je fais cette différence et je pense que Cavazos accepte que même déjà nous entrons dans la vie éternelle, dans la vie eschatologique, mais pas encore pleinement. Nous attendons la résurrection à la parousie, mais avec Marie, c'est un fait accompli.
Simplement, je vous remercie, Monseigneur, d'avoir rappelé, amené toutes ces précisions sur la, cette unification de la Mère de Dieu à l'œuvre de son Fils. Et simplement, en vous écoutant, j'ai retrouvé un passage aussi radical dans la vie en Christ, le livre 2, et qui me paraît difficilement compatible avec ce que Saint Nicolas Cavazilas disait dans ses homélies. Je lis. C'est dans le chapitre 2, paragraphe 38. Le péché fut sans fin, les actes créant un habitus, l'habitus augmentant de l'accumulation des actes. Un peu plus loin, Nicolas Cavazilas ajoute, peut-être aussi est-il impossible à la race des hommes de suffire à sa propre guérison, pour la raison suivante. Elle n'avait pratiquement jamais goûté à la liberté et elle était incapable de parvenir à la désirer à vouloir l'atteindre et à se soulever contre la tyrannie. Il me semble là que Saint Nicolas Cavazilas appuie lourdement sur l'impossibilité de quiconque partage la nature humaine de pouvoir accomplir l'exploit dont vous nous dites que la Mère de Dieu l'a réalisé.
Alors, merci bien pour cette référence. Je dois bien penser sur cela. Mais à ce moment, je peux dire seulement quelque chose que Saint Grégoire Palamas a dit. C'est la caractéristique du vrai théologien de dire quelquefois une chose et quelquefois une autre chose, si tous les deux vérités sont valables. Et à cause de cela, il est difficile, oui, à faire une conciliation là. Mais peut-être Cavazilas a voulu insister d'une façon dialectique sur toutes les deux choses.
Monsieur Coticello voulait.
Je voulais juste rebondir sur ce que disait Monseigneur Cassas. Justement, c'est la plus. Je pense que c'est à propos de mariologie. La mariologie, je pense, l'intuition fondamentale, c'est l'intuition des homélies. Hein. Alors, par ailleurs, Jugy l'avait formulé avec une extrême clarté. Hein. La Vierge, c'est le type idéal. Ça veut dire qu'elle a déjà accompli, elle est en Dieu ce que l'homme deviendra. Hein? Ça, c'est, je pense, l'intuition fondamentale. D'ailleurs, ça vient de Denis l'Areopagite. Hein? Il est très influencé, justement, c'est la doctrine de la précontenance. Hein? Pour les textes de Cavazilas, effectivement, c'est très important de constater que Cavazilas, dans son œuvre, comme vous l'avez dit, en théologie, insiste sur plusieurs aspects en même temps, mais disons, il n'est pas d'une cohérence scolastique. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de contradictions dans son œuvre. Hein. Il se répète souvent, il dit même parfois le contraire de ce qu'il affirme. Mais je pense, pour la mariologie, c'est la note dominante. C'est le type idéal, c'est la doctrine des homélies. Pour le livre 2 en particulier, effectivement, c'est frappant. Mais il y a une raison de genre littéraire et de source. Je pense que c'est aussi dans ce livre, là, le mot que vous lisiez justement me font penser à ça. Vous savez que Cavazilas a été influencé nettement par la doctrine d'Anselme d'Aoste. Anselme, Saint Anselme. Hein?
Ah, oui.
Il avait lu Saint Anselme. Et d'ailleurs, parfois, il le cite presque mot à mot. Hein? Il avait lu Saint Anselme et le cite, et il est influencé par Saint Anselme, notamment sur la doctrine de la satisfaction qui est entre les lignes que vous lisiez. Hein. évidemment, Saint Anselme ne va pas dans le sens de Cabasilas, hein, mais pourtant, il est d'un Cabasilas. Hein.
Mais c'est vrai, Cabasilas n'est pas tout à fait systématique.
Une dernière question, monsieur le professeur Van Rossum.
Vous avez utilisé l'expression « mère de l'Église » pour...
Oui.
C'est une expression utilisée par...
Pas exactement. C'est moi qui a dit cela. Peut-être je dois faire une footnote. Non, c'est vrai, cette expression plutôt moderne ne se trouve pas
dans... Vous
ne pensez
pas
cette
une expression un
peu dangereuse, ambiguë? Oui, peut-être vous avez raison, mais ça exprime ce que Cavassilas veut dire, qu'elle est l'inauguration de la nouvelle alliance, mais vous avez raison. Je suis content que vous ne dormez pas.